Ça y est, retour des vidéos, ça commence à se calmer un petit peu. C'était une période, j'en avais parlé avec la sortie du disque, du livre, c'était assez mouvementé. Ça fait quoi, peut-être 3 semaines que j'avais pas fait de vidéo. Donc là, on va parler un petit peu, on va faire un pas de côté, je vais reparler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est un chapitre du livre, de l'élève et le maître. Et les vidéos d'analyse reviennent très vite, j'ai déjà un sujet là que je suis en train de cogiter. Je pense qu'on va parler des modes parallèles, Restez connectés, ça viendra très très vite. Alors, déjà plein de choses à vous dire. Déjà, merci à ceux qui sont venus nous écouter au Sunside. C'était 3 soirs incroyables. Et donc la surprise, j'en avais pas parlé parce que je savais pas comment elle allait venir, si elle serait là les 3 soirs. Il y avait Charlotte qui était là, il y avait Charlotte Planchou. Et c'était magnifique, beaucoup d'émotions, beaucoup de monde, des élèves, des abonnés de la chaîne, des gens qui sont venus de province nous applaudir. On était plein et c'était vraiment magnifique. Alors j'en profite, j'espère que j'ai vu tout le monde, mais je vous remercie d'avoir été présents, pour ceux qui ont fait le déplacement, ceux qui nous ont ratés. Eh bien normalement, on reviendra. Qu'est-ce qu'on a dit en septembre? De toute façon, je communiquerai là-dessus. Peut-être 11 et 12. Je m'avance pas encore sur ces dates-là, mais ce sera pour le pianissimo. Et puis voilà. Et communication importante, je serai en piano solo à Lesquin. Et ça, je mettrai la date en description, quoique je peux peut-être la donner tout de suite. La date. Le 10 et le 11 avril. 10 et 11 avril. Alors, le 10 au soir, c'est une masterclass sur l'IA. Et le 11, c'est un concert en piano solo. Alors, je crois que c'est très petit. Je crois même que c'est en entrée libre. Alors, ça me plaît beaucoup de pouvoir venir jouer et profiter, enfin, offrir un concert. J'aime bien aussi, de temps en temps, c'est très très bien de pouvoir faire ça. D'ailleurs, j'en profite, je le dis pas à chaque fois. Si vous voulez organiser un concert, peut-être vous avez un lieu, hein, un théâtre, une association, la possibilité, voilà. Les détails techniques, on peut parfois trouver une solution. Donc, si vous avez envie, ça dépend du budget, le trio, le solo, une masterclass. Bon, parlons-en. When there's a will, there's a way, n'est-ce pas? Quand on veut, on peut. Mais en anglais, c'est quand il y a une volonté, quand il y a un esprit, on peut essayer de trouver quelque chose. Je vous rappelle, si vous voulez aider la chaîne, que le disque Flink, ça c'est le répertoire qu'on a joué au Sunside ces 3 jours, voilà, est disponible. Et puis, on va en parler là tout de suite dans un instant, l'élève et le maître. Alors, il y a eu plein d'actualités. On avait passé, bon, les grosses têtes, on avait parlé. On était disque du jour sur TSF. Je suis passé 2 fois sur FIP. On a été 4 étoiles dans le Jazz Magazine. Enfin, il y a un accueil qui est incroyable. Et puis, le fait que les sorties soient concomitantes, ce qui est un pur hasard, des calendriers, mais ben, ça a fait une espèce d'appel d'air. Et bon, c'est vraiment, c'est inespéré. Je suis heureux, je suis chanceux, vraiment. Puis vous êtes au rendez-vous, vous êtes là, vraiment. Alors, je le sais, puis après c'est terminé, on rentre dans le vif du sujet. Je sais que beaucoup d'entre vous, comment dire, vous n'avez pas pu trouver le livre ou le disque parce que sur certaines plateformes, notamment tout ce qui est Amazon, tout ça, même la Fnac, hein, ils sont en rupture. Et alors, je me bats avec les distributeurs, je me bats. Bon, je fais ce que je peux. On a été victime de notre succès, et comme je suis dans une espèce de notoriété intermédiaire, c'est-à-dire que je suis pas non plus, je suis pas chez Gallimard, hein, cela dit, quand j'étais chez De Noël, comment dire, les représentants et la compta, c'est Gallimard. Bon, ben là, c'est autre chose, je suis avec un petit éditeur, et je suis ravi d'être chez H&O, parce que ça se passe très bien, et on a pu travailler ensemble, et c'était une autre expérience pour moi. Je pourrais en parler de mon expérience dans l'édition, c'est vraiment, ça m'apporte beaucoup aussi de travailler avec une boîte à taille, comment dire, plus modeste, à échelle humaine. Donc, il y a beaucoup d'avantages, quelques inconvénients. Le fait est que, bah, on a un poids vis-à-vis des distributeurs, des représentants, vis-à-vis des libraires, bah, qui est moins, ça pèse moins, quoi. Voilà. Et donc, comme je disais, bah, la notoriété en même temps, je suis pas un inconnu, mais je suis pas non plus, je suis pas André Manoukian, je suis pas. Donc, tout le monde y va un peu, ah oui, on y va, on prend un peu quelques exemplaires, et puis en fait, tous, ils se sont retrouvés, ah bah oui, mais non. Alors, j'ai des élèves qui m'ont dit, mais on va le demander à la FNAC, on trouve pas ton disque, on trouve pas ton livre. Alors, je dis, mais pétez un scandale, faut y aller, vous vous roulez par terre, mais comment? Quoi? Vous n'avez pas le livre, vous n'avez pas le disque d'Étienne Guéraud, mais non, mais appelez-moi directeur, voilà. Bon, plus sérieusement, je vous mets les deux liens en description pour vous procurer le livre et le disque de manière sûre, parce que ça, c'est directement auprès de l'éditeur et directement auprès du distributeur. Normalement, là, ça marche, sinon je vais finir par le vendre moi-même. Hein. Je vais ouvrir ma librairie bientôt, quoi, hein, puisqu'il faut tout faire soi-même. Voilà, continuez de m'aider, continuez de me soutenir en vous procurant ces objets. Et voilà. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit pas de côté, comme je vous disais, un petit sujet pour commencer à parler un peu du livre ou des sujets du livre qui me tiennent à cœur. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la critique. La critique. Vaste sujet, me direz-vous. Alors, c'est intéressant pour moi de parler de la critique parce que déjà, c'est au cœur du métier. Je vais suivre le découpage du livre, mais ici je peux parler en plus d'un élément que j'ai pas vraiment abordé parce que ça concernait pas vraiment les lecteurs qui ne me connaîtraient pas par le biais de la chaîne, c'est aussi la critique numérique et puis aussi la critique YouTube. Je ne dis pas que je vais régler mes comptes, mais ça fait quand même quelques années que j'en prends un peu plein la gueule. Parfois, c'est normal, c'est le jeu, on s'expose, je vais en reparler. Parfois, il y a des gens qui ont quand même été de mauvaise foi. Donc, les gens me demandent comment tu le vis, ou des gens qui me disent, écoute, tiens, je pense à monter ma chaîne, comment ça se passe? Et quand je leur raconte, ils me disent, ah, je vais peut-être réfléchir, je vais peut-être attendre un peu. Je dis, bah, écoute, réfléchis, au moins je te donne les infos. Donc, la critique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la critique? Déjà, dans la formation, non, pour commencer, on peut dire que, si je fais un peu d'une présentation de la vidéo rapidement, on va parler de la critique positive, de la critique négative, la critique d'art et YouTube. Ok ? Première chose à dire, c'est que la critique, elle arrive nécessairement avec l'exposition. Alors c'est un peu impensif de dire ça, c'est un peu, ça pique pas beaucoup quand on le dit comme ça, mais c'est tellement évident qu'il faut quand même le rappeler. Je dis ça à l'intention des jeunes ou des moins jeunes, en fait, de toute personne qui commence à s'exposer, qui a une production artistique, même une production culturelle ou une production tout court. Nous, on parle d'art, mais finalement, c'est valable. À partir du moment où vous exposez votre travail, vous exposez votre pensée, quel que soit le médium, eh bien, à moins de vivre dans un pays où la parole est totalement muselée, où tout le monde est d'accord, ce qui s'appelle la dictature ou le totalitarisme, eh bien, c'est normal d'être entre guillemets critiqué, c'est normal d'avoir des retours, et encore plus important, encore plus intéressant que ça, il faut s'attendre à ces retours, il faut s'y préparer. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se lance complètement avec naïveté en s'exposant, et puis en se disant « bon, on verra bien ». Oui, là, moi, si ce sont des gens que je connais ou avec qui je peux faire montre de prévenance, c'est des gens que je vais alerter, dire « attention, tu sais ». Parfois, même il y a un peu de l'empathie, comme je l'ai vécu, je dis, tu sais que tu risques de te faire critiquer, tu sais que ça risque d'être très dur si tu dis ça, ah bon, tu crois? Je dis, oui, oui, vaut mieux s'y préparer, vaut mieux s'y faire, quitte à avoir de bonnes surprises. C'est pas, comment dire, la méchanceté et la malveillance c'est pas gravé dans le marbre, mais plus on s'expose, plus la parole porte, plus les critiques arrivent avec force. C'est comme ça, c'est une loi. Alors, donc quand on dit la critique, c'est quoi en réalité la première critique? Eh bien, la première critique, je vais parler des artistes et de ceux qui sont passés par une formation, c'est pas vraiment une critique au sens où on l'entend, mais pourtant ça va être l'étalon de la critique. Eh bien, c'est le professeur. C'est la voix de l'enseignant. Parce que la parole du professeur, la parole du maître, dont je parle beaucoup dans l'élève et le maître, en réalité, c'est une matrice, c'est un modèle, c'est un étalon auquel l'artiste, l'élève qui va se produire après, ou n'importe quel, le musicien, pourra toujours se référer à cette parole critique. Alors pourquoi je dis c'est un dialogue? Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Pourquoi est-ce que c'est un modèle? Parce que quand c'est bien fait, quand la critique professorale porte, et quand elle est bienveillante précisément, eh bien, elle est pertinente. Elle sait dire les bonnes choses, dans une relation équilibrée, hein, pas avec des profs tordus, hein, quelqu'un, un professeur qui aime sa matière, qui veut voir progresser son élève et qui est bien intentionné, dit les bonnes choses et il dit aussi les mauvaises. Ça, c'est une. Alors, ça pose tout de suite une question, un problème, une question à la que j'ai déjà évoquée, pas à laquelle j'ai répondu, mais à laquelle je réfléchis. Nous sommes en train de rentrer dans une société, j'en ai parlé récemment dans l'interview que j'ai donnée pour Merwan sur le long format, dans ce que Bronstein appelle la tyrannie de la bienveillance. Alors, on va pas refaire, je vais pas toujours reparler des mêmes sujets, mais je dois bien dire que dans l'enseignement, et j'en parle avec les profs que je connais, moi je suis protégé parce que j'enseigne dans une école privée, mais dans les conservatoires, dans les universités, j'en parle même pas, eh bien, la parole critique devient difficile. C'est un élève qu'on remet à sa place. Il ne s'agit pas d'être cassant, il ne s'agit pas d'être malveillant ou de castrer ou de pas ça, mais simplement de dire écoute, là ça va pas, là tu as mal fait. On peut le dire avec beaucoup de forme, mais il y a un moment c'est comme avec les enfants. Il y a un moment un gamin qui fait une connerie, il faut dire non, tu as mal fait. Et il s'affiche. Bon, et on peut faire de la psychologie, mais il y a un moment il faut que les c'est un choix de société, c'est un choix éducationnel. Mais moi je considère, et on est beaucoup, et les pédopsychiatres le pensent, il faut que les gamins trouvent des limites. De la même façon, il faut que les élèves trouvent des limites. Et beaucoup d'élèves seraient complètement désemparés si le professeur était complètement béat d'admiration en permanence. Quand bien même l'élève, le jeune ou le moins jeune, sent bien qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées ou qui vont pas, d'avoir quelqu'un qui en face vous dit « Non, non, c'est bien, bon, peut-être améliorer, enfin, avec une espèce de circonlocution insupportable, il y a un enfant. » Il y a un moment, je vois bien les élèves que j'ai, ils sont contents quand je leur dis franchement, sans méchanceté, je leur dis « Écoute, non, ça c'est super, ça t'a bien fait, ça va pas. » Ça ne me plaît pas. Je sais pas mon goût, mais c'est bien. Écoute, ça c'est ton choix, c'est très bien. Ça, par contre, telle position, ça va pas. Ça, c'était pas équilibré. Ça, si tu présentes ça en session, tu vas te ramasser. C'est pas possible. Là, tu as pressé. Ton tempo n'est pas bon. Et voilà. Et ce qu'on m'a dit. Et ce qui est formateur. Encore une fois, il s'agit pas de l'élève doit pas repartir en étant complètement éclaté, désemparé, désarçonné, dépité, avoir perdu foi en son travail. Il faut toujours que la relation soit équilibrée. Et il faut que ce soit à concurrence avec des critiques positives, mais il faut dire ces choses-là. Donc ça, c'est un modèle. Ça, c'est un modèle. Et puis, pourquoi je dis c'est un modèle? Parce que chaque fois que la critique va revenir tout au long de la carrière, il va falloir que l'artiste, l'élève, qui sera peut-être lui-même devenu maître, puisque l'élève est le maître, eh bien, quand il aura un doute en se disant « qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien ?» Il va falloir ressusciter la parole du magistère. C'est ça, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est précieux. Et ces moments qu'on vit dans l'intimité de la pédagogie, il faut, comment dire, comprendre ce qui se passe à cet endroit-là, l'identifier, il faut le cristalliser, il faut vraiment le mettre. Ce sont des petits trésors qu'il faut ranger et auxquels il faut pouvoir accéder régulièrement dans sa vie, dans sa carrière. Alors la première forme de critique, c'est la critique positive. Alors, après tout, on pourrait dire que ça mérite pas vraiment qu'on s'y attarde. Mais quand même, il faut en dire un mot parce que il y a pas mal de gens qui ont du mal avec la critique positive. Moi, j'étais comme ça. Je suis encore un peu comme ça. Entendons-nous, c'est-à-dire que, bien sûr que quand quelqu'un vient vous voir et que vous dites « Ah, c'était génial, j'ai pris du plaisir, c'était très bien, merci », les gens vous disent, quand les gens vous disent « Merci, merci », évidemment que c'est plaisant. Mais j'ai toujours eu, et c'est assez récent, ça fait une petite dizaine d'années, où j'ai pu vraiment accepter, sans négocier avec moi-même, hein, avec cette espèce de syndrome de l'imposteur qui habite, qui hante tous les artistes qui sont exigeants, c'est comme ça, on se défait pas du fait, on se dit, mais non, j'ai mal fait, il a pas entendu, j'ai raté trop de trucs, il peut pas trouver ça bien, j'ai pas bien fait. Il y a cette espèce de voix, quand on est exigeant, ce qui est mon cas, mais je connais beaucoup d'artistes qui fonctionnent comme moi, parfois les gens viennent vous voir, vous avez considéré que vous avez raté votre concert, c'était pas bien, et les gens viennent vous féliciter, et on vous dit, mais non, c'était bien. Et là, c'est très important, et ça, c'est un message que j'envoie. Là, il faut savoir dire merci. Là, il faut savoir prendre les critiques positives. C'est suffisamment dur comme ça. Il faut savoir surtout comprendre qu'on ne peut pas être à la place de la personne. On ne peut pas ressentir, on ne sait pas par quel moyen on a donné du plaisir aux auditeurs. C'est valable pour n'importe quel art, n'importe quelle forme d'art, n'importe quel médium. Et donc, on aurait tendance à faire de la projection, à imaginer, puisque moi je considère que j'ai pas bien fait, ou puisque je considère que j'ai pas donné ce qu'il fallait, ou selon mes exigences, mes compétences, ma grille d'analyse de lecture, je considère que c'est pas bien, vous n'avez pas à me féliciter. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Or, alors là je vais me permettre de lire un passage du livre, mais je ne ferai que mal me paraphraser, et j'avais écrit ça. « Nous ne décidons pas de ce qui passionne les auditeurs ou les journalistes. Nous n'avons aucune emprise sur les motivations qui suscitent une sorte de sympathie irrationnelle. Chaque œuvre, chaque concert, chaque texte déclenche des processus émotionnels intangibles. Il convient d'apprendre à les reconnaître et à les recevoir inconditionnellement, à s'en nourrir et ne dire au bout du compte qu'un seul mot, merci. On n'est jamais dans la tête de l'autre et les raisons qui poussent quiconque à estimer un artiste, à lui témoigner du respect ou une forme d'amour pudique, sont des fleurs sans jardin qu'il faut accepter pour en apprécier le parfum sauvage. Voilà. Voilà ce que je pense de la critique positive. Donc en résumé, oui, on n'est pas toujours au clair, on n'est pas toujours content, mais c'est suffisamment, encore une fois, dur comme ça, il faut accepter. Tout ce qu'il y a à dire quand c'est comme ça, c'est merci. Le bilan viendra après. Et surtout, les gens ne pourraient pas comprendre. Parce que ça vous est arrivé, moi j'ai été en admiration, je suis allé voir des artistes, des auteurs à des signatures, ou je raconte une anecdote avec un humoriste. Que je suis allé voir un comédien, je dis, ben bravo, je suis fan. Et là, j'étais accueilli par un mec qui était d'une froideur, complètement détaché. Quelle déception. J'attendais pas, il était occupé, plus connu, j'attendais pas à ce qu'il prenne une heure avec moi, mais en fait, il m'aurait simplement dit, merci, ça me touche, c'est gentil, j'avais pas besoin de plus, quoi. Ça n'a même pas enlevé l'admiration que j'avais pour lui, mais sur le coup, je suis reparti, j'étais, Et je me suis dit, mon vieux, si un jour, t'as la chance, ça remonte déjà. Si t'as un jour la chance dans ce métier que des gens viennent te voir et te disent « Oh, j'aime ce que vous faites, merci, j'étais loin d'imaginer que je pourrais monter sur scène comme je le fais sous mon nom, parce que je faisais déjà le métier, mais pour moi tout ça c'est incroyable, c'est inespéré, je le vis vraiment comme un cadeau, cadeau du ciel, si j'étais croyant, peut-être que je vais finir par être croyant, je ne sais pas. Enfin en tout cas, j'explore les choses de l'esprit et l'irrationnel, mais j'en suis pas encore là. » Et en tout cas, je m'étais dit, si ça arrive, mon vieux, tout ce que tu auras à dire, c'est merci. Et quand les gens viennent me voir, et aujourd'hui, je leur dis merci, et je peux vous dire que je suis sincère. Et je me dis, tout ça, c'est une chance, et il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, ça, c'est pour la critique positive. La critique négative, maintenant. Alors, celle-là, ça, c'est celle qui pique. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la critique négative? Déjà, il faut savoir qui parle et d'où parle la personne. Parce que ce qu'il faut bien dire en préambule, et ça c'est pareil, c'est quelque chose à quoi il faut réfléchir, à qui l'art c'est un langage. C'est l'art langage et on s'exprime. On raconte des histoires avec les mots, je raconte une histoire, je fais mon essai, avant je faisais des romans. On n'écrit jamais dans le vide, on ne joue jamais dans le vide, on ne s'exprime jamais. Je sais à qui je parle, à peu près. Je sais que je m'exprime là à des gens qui vont regarder sur la chaîne YouTube. Je sais à peu près qui m'écoute, même si la parole n'est pas confisquée, la vidéo n'est pas, comment dire, il n'y a pas un cadre audiovisuel qui est absolument circonscrit. Mais enfin, je sais à peu près quel est mon auditeur virtuel. De la même façon, quand je joue, je sais à peu près pour qui je joue. Ça ne veut pas dire que n'importe qui peut pas m'écouter, mais je joue en me disant, je m'adresse à quelqu'un qui va aimer un peu le jazz, qui va avoir envie d'écouter des belles mélodies, qui va quand même avoir un certain goût pour le raffinement harmonique. Et je me dis pas, ah mince, je devrais peut-être aussi m'exprimer pour les musiciens de jazz archi pointus. Ah puis peut-être je devrais aussi m'exprimer pour les gens qui connaissent rien au jazz. Ah puis peut-être je devrais aussi penser aux rockers. Et puis vous avez compris quoi. Et on peut pas, c'est pas possible. Il y a un moment, on fait un discours, on s'adresse dans cet échange, dans cette logique de de récepteur, vous voyez, un émetteur-récepteur, il faut à un moment prendre des décisions. Ce qui veut dire quoi, en bref? On ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. On s'adresse à quelqu'un, on fait des choix narratifs, des choix littéraires, des choix techniques, des choix esthétiques, et il faut les assumer. C'est ça. Et c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus intéressant de toute façon à terme de dire, je ne veux pas plaire à tout le monde. Même, il ne faut surtout pas vouloir plaire à tout le monde. Et je raconte mon histoire, et je la raconte à certaines personnes. Certains aimeront, d'autres aimeront pas. Mais voilà, on fera le bilan à la fin. Le plus important là-dedans, le plus important, c'est la sincérité. Voilà, en fait. Le maître mot, c'est pas de vouloir plaire, c'est pas de vouloir faire le beau, c'est pas ça. C'est d'être vrai, c'est d'être authentique. Peu importe que ça ne plaise pas à certaines personnes, peu importe que ce soit un ratage. Moi, mes premiers disques, c'était une catastrophe. Enfin, c'était même pas... C'était une sorte d'autoproduction à peine soutenue par des relais. Enfin, j'ai vécu... D'ailleurs, je parlerai de l'échec. On fera une vidéo sur l'échec. L'échec, c'est pas grave. L'échec, c'est bien. Ça forge l'homme. Et ce que je veux dire, c'est que avoir des critiques et Et survivre à ça, tant qu'on est authentique, qu'on est vrai et qu'on a été loyal avec son propos, sa pensée, ses intentions, il n'y a aucun problème. Moi, quand même, on me dit, j'aime pas ta musique ou j'aime pas ce que tu as fait, je dis, c'est pas grave. Moi, j'ai mis tout ce que j'avais, j'ai mis mon cœur, j'ai mis mon argent, accessoirement, mais j'ai été sincère, donc voilà. Et par contre, les gens à qui vous allez plaire, ceux-là sentiront la sincérité. Voilà. Parce que même quelqu'un à qui vous parlez, même quelqu'un qui est en phase avec vous, qui va partager votre esthétique, votre univers littéraire, musical, mais qui va sentir les postures, même à celui-là, vous ne plairez qu'à moitié. Alors à quoi bon? C'est pas possible. Alors revenons à cette histoire de critique négative. Pourquoi je dis ça? Bah, la critique négative qui parle. Sachant que j'ai pris des décisions et j'ai fait des choix formels, j'ai fait des choix esthétiques. Bah, ma foi, quelqu'un me dit, j'aime pas, ou est-ce que t'as... Je dis, ok, très bien, écoute. Tant pis, je me dis, moi, tant pis, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de la malveillance derrière? C'est ça, quand je disais qui parle la personne, qui est cette personne? Est-ce qu'elle a intérêt à me dire du mal? Est-ce qu'elle a intérêt à critiquer? Est-ce qu'elle est inconnue? Est-ce qu'elle y met les formes? Faut repérer aussi la façon. D'où parle-t-elle? Est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que sur les réseaux c'est simplement du trolling? Ou est-ce que c'est quelqu'un vraiment qui s'intéresse à mon travail? Est-ce qu'elle est fondée à formuler une critique? Tout le monde n'est pas, comment dire, n'est pas fondé. Bien sûr que tout le monde peut émettre un avis, tout le monde peut critiquer. Mais quand on est artiste, quand on est cinéaste, quand on est auteur, il faut savoir entendre la critique. Quelqu'un qui est, qui a de l'expérience, qui a l'habitude de, qui lit beaucoup, par exemple, et qui est plutôt, pas lénifiant, mais qui est plutôt bienveillant dans ses mots, qui d'un coup dit, écoute, j'ai pas adhéré, ou, non, c'est ça. Et vous sentez qu'il y a beaucoup de formes, et qu'au bout du compte, la personne vous dit, écoute, non, j'ai pas aimé, ou ça, vraiment, ça. Bon, qu'est-ce que vous en faites? C'est ça la question. Là, vous dites, bon, la personne me fait une critique quand même plutôt soit nuancée, soit en demi-teinte, soit carrément en me disant, écoute, non, ça, vraiment, j'ai pas aimé, ou je pense que tu t'es trompé. On le prend, on le prend pas. En tout cas, premier réflexe, d'où parle-t-elle? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est fondée? Est-ce qu'elle a un peu d'expérience? Est-ce qu'elle a un peu d'expertise dans son domaine quand même? Ah voilà, on peut pas être jugé par n'importe qui. Moi, quelqu'un qui me dit, quelqu'un qui connaît rien à la musique, qui me dit, ta musique c'est bien, mais c'est un peu dissonant quand même. Je comprends tout à fait. Maintenant, je sais très bien, ce serait comme un enfant ou quelqu'un qui connaît rien à la gastronomie, qui va aller pour la première fois de sa vie, qui va boire un grand vin ou qui va aller chez un gastronomique et qui va dire « Ouais, c'est bien, mais enfin, il n'y a pas beaucoup à manger quand même. Hein. Moi, je suis reparti, j'avais un peu faim et puis ça manquait de sel. » Voilà, là on parle, on n'est pas sur un niveau de... La personne n'a pas assez de recul, n'a pas assez d'expérience dans son domaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut être sur son espèce de piédestal et refuser, dire « moi je ne veux être jugé que par les gens qui sont absolument des experts, je ne veux que des jugements d'esthètes », c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il faut toujours analyser d'où vient la critique. Fut-elle positive? C'est pareil, quelqu'un qui veut complètement, qui est là, c'est génial, j'adore, les fans ultimes, vous pourriez faire n'importe quoi, accrocher, n'est-ce pas, sur un S de boucher, et qui trouverait ça encore formidable, c'est pas bon non plus, voilà. Donc en réalité, l'intérêt, ou peut-être ce qui peut aider le créateur, se situe sans doute entre les deux. Maintenant, positif ou négatif, pour avancer, je pense que le plus important, c'est de repérer le consensus. Ah, qu'est-ce que c'est le consensus? Ça, c'est vraiment une règle. Eh bien, bonne critique, mauvaise critique, ou plutôt un point qui a été soulevé dans la production d'une œuvre, tel solo, ça peut être l'ordre des morceaux, le style, les paragraphes, le sujet, la pochette de l'album, le mixage, enfin, tout ce qui peut être. Moi, je suis dans plusieurs univers. Pour une pédagogie, ça pourrait être, quand ton concept n'est pas clair. J'ai pas compris. 10 élèves qui vous disent, j'ai pas compris. C'est qui le problème? C'est le prof ou c'est les élèves? Quand vous avez 10 élèves qui disent, écoute, non, ça, je comprends pas. Il y a un moment, faut, comprends ce que je veux dire? Moi, je guette ça. Chez mes élèves, quand, d'une semaine sur l'autre, où je suis toujours en train de créer des exercices, quand je vois que les élèves butent sur les mêmes doigtés, ou qu'ils me disent, écoute, non, ça, je comprends. Je me dis, bon, je remets l'ouvrage sur le métier, faut refaire. Faut être humble, modeste, il faut, bon, faut recommencer, il y a un truc qui est pas passé, c'est pas les élèves qui vont passer, moi. De la même façon, si tout le monde est élogieux sur un aspect du disque, les gens ne se connaissent pas, les gens n'ont aucun intérêt objectif à dire la même chose, parce que c'est simplement, on sent que c'est sincère et que c'est purement gratuit, bon, bah, il faut prendre la critique positive, faut l'accepter. Et ça marche dans l'autre sens, les gens ne se connaissent pas, et puis vous sentez que les réserves portent exactement au même endroit, faudrait être idiot pour pas se dire, bon, là, manifestement, il y a quelque chose qui va pas. Voilà ce que je peux dire comme comme grand guide pour, par rapport à cette histoire de critique. Je pense que c'est la meilleure piste, c'est le meilleur guide entre ça plus ressusciter la parole du professeur. Parce que la parole du professeur, c'était ça. C'était à la fois de la critique positive et négative en venant de quelqu'un qui n'avait qu'une seule envie, c'est de vous tirer, de nous tirer vers le haut. Et donc, c'est un petit peu ça, en disant, est-ce que ça rentre dans cette grille-là? Est-ce que la personne, elle est bienveillante? Est-ce que c'est uniquement pour m'assassiner, ce qui n'est pas bon? Ou est-ce que c'est uniquement pour m'encenser, mais ce qui n'est pas bon non plus? Parce que, bien sûr que quelqu'un qui va dire, écoute, j'ai rien à dire, j'ai adoré, bien sûr que ça fait plaisir. Et il faut prendre ça. Et moi, ça mentirait, ça nourrit l'ego, ça fait du bien. C'est tellement dur de produire un disque, un livre, de produire un cours, une méthode, n'importe quoi. C'est des heures, si c'est pas des semaines ou des années de boulot. Donc évidemment qu'il faut prendre tout ça. Maintenant, faut jamais se payer de mots, faut pas se vivre que ça confine à une espèce d'indolence et puis être dans une attendre uniquement comme ça. Alors allez-y, flattez-moi comme De Funès avec Montand dans la Folie des Grandeurs. Flattez-moi Blaise, hein, je crois. Voilà pour ça. Après, encore deux petites choses à dire. La critique d'art, je crois que j'ai pas envie de parler de la critique d'art maintenant. Parce que c'est un gros morceau, ça mériterait une vidéo à part entière. Et puis, je suis en train de réfléchir à une vidéo que je ferai avec des journalistes, justement, qui sont journalistes dans le milieu du jazz. C'est temps pour parler, ça ferait des vidéos très intéressantes. Qui est fondé à critiquer? Qui peut vraiment émettre un avis? Est-ce qu'il faut être connaisseur? Quand on parle de musique, est-ce qu'il faut connaître la musique? Est-ce qu'il faut être musicien? Est-ce qu'il faut écouter beaucoup de disques? Est-ce qu'on est dégagé du jugement? Quand on connaît la personne qui a produit le disque, est-ce qu'on est objectif ou subjectif? C'est toutes ces questions que je me pose, et je suis en train de réunir les gens à qui je vais pouvoir poser ces questions-là, et on réfléchira ensemble. Puisque moi-même, je formule des critiques, et j'en reçois beaucoup. Et nous voilà au dernier point, la critique YouTube. Alors, sans rentrer sans empiéter sur la vidéo que je veux faire, qu'est-ce qui fait pour moi l'intérêt d'une critique? Je pense aux gens avec lesquels j'ai été les plus durs, parce que ceux que j'ai encensés, évidemment. Bon, déjà, je pense qu'il faut éviter la gratuité. Et je crois que ceux que j'ai le plus égratignés, alors à chaque fois on me reparle de Billie Eilish ou de ces gens-là, c'est vrai qu'il y a eu de la blague. Maintenant, ce ne sont pas des gens sur qui je me suis acharné, je veux dire, il y a eu un peu d'humour, mais globalement, ça n'a pas été... Et puis, je n'ai jamais tiré sur l'ambulance. Bon, je pense quelqu'un qui a fait beaucoup couler d'encre, c'est Sofiane Pamart. Mais Sofiane Pamart, c'est de la même façon. Je dirais que j'ai d'abord quand même... On a retenu que la fin où je disais que c'était, en rigolant, je disais c'est Kleiderman en mode bad boy. Ce que je pense, d'ailleurs. C'était un bon mot. Les gens pensent que c'était méchant, c'était pas méchant. Bon, voilà, on a dit ça, mais les gens qui n'ont pris que ça oublient que j'ai quand même passé plus de la moitié de la vidéo à analyser ce qu'il faisait, à le jouer, pour ne pas parler dans le vide, et pour rendre hommage à son jeu qui vaut ce qu'il vaut. Je reviens pas sur la vidéo, mais j'ai quand même dit une bonne partie de la vidéo, oui, c'est plutôt un bon pianiste, allez, même disons que c'est un bon pianiste, et quand même pas, il sait de quoi il parle, même si après c'est pas ma cam, et j'ai simplement levé le drapeau en disant, bon, je pense que quand par contre il est là avec ses simagrées, d'ailleurs, je crois que j'ai compris. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est tout le temps comme ça. Alors en fait, je vous donne le secret de Sofiane Pamart. En fait, il se brûle. C'est pour ça. En fait, il chauffe le piano. Et puis quand il joue, et puis hop, comme ça, il fait ses gestes là-bas. C'est ça le secret, en fait. Donc, si vous voulez faire pareil, vous faites du Pamart, chauffez le clavier à blanc, sans les gants, et puis clac, vous allez voir régulièrement, vous allez voir ces espèces de grands gestes comme ça. Voilà. Bon, blague à part. Ce que je veux dire, c'est que finalement, ce qu'on a fait... C'est pas inutile au sens où, que ce soit pour Pamart ou que ce soit pour d'autres personnes, formuler ce type de critique, dégager le bon comme les mauvais, je pense que c'est déterminer les contours d'une œuvre. Voilà. C'est ça qui est bien. Une œuvre peut pas être totale. Une œuvre peut pas être, elle a pas le don d'ubiquité, elle peut pas être omnipotente, omnisciente, omniprésente, elle peut, voilà. Je pense que chaque production, chaque objet culturel, chaque disque a vocation à exister dans un espace. Et je pense que une critique bien faite va déterminer cet espace, va la circonscrire et partant va lui donner de la densité. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. De dire à propos d'un film, d'un disque, d'un livre, ça c'est super, ça c'est bien, ça c'est peut-être un petit peu moins bien, je pense que là ça le concerne plus, ou de toute façon c'est pas la peine de parler de ça parce que c'est plus son sujet, ça il le maîtrise pas. Finalement, ça permet, encore une fois, ça met des barrières qui sont, alors on va me dire c'est des barrières subjectives, bien sûr, qui critiquent. Ça, on en revient à ce que je disais, quand moi je formule une critique, je ne dis pas la vérité, je dis selon moi, selon mes critères, selon ma culture, voilà. Et les gens qui comprennent ma psychologie, qui comprennent mon parcours vont dire ok. je suis d'accord ou non. Il y a des tas de gens qui me disent, je suis pas d'accord avec toi. Des tas de musiciens, des tas de, quand on a fait Sofiane Bernard, des tas de profs qui m'ont dit, non, tu te trompes parce que moi je l'enseigne et il fait venir les gens au classique. Je dis, ok, bah, très bien. Ça, c'est des éléments que j'avais pas, puisque moi-même, je ne fais pas jouer du Sofiane Bernard. Parce qu'on me le demande pas et puis parce que je voudrais pas. Mais j'ai entendu. Je me dis, bah voilà, des contradictions. On me dit, donc, cette critique, elle méritait vraiment d'être corrigée. Et j'ai entendu des gens qui me disaient, tu sais, bah, vaut mieux Sofiane Bernard et que les gens aillent au piano jazz ou au piano classique. J'avoue que même en le disant encore maintenant, j'ai un peu du mal à y croire parce que je connais, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui faisaient du Kleinerman qui, après, sont allés vers un répertoire plus étoffé. Mais peut-être que je me trompe et il a fallu entendre ça, quoi. Et puis enfin, pour terminer cette histoire, la critique YouTube. Alors là, ça c'est, je mets en garde, ça j'en parle pas dans le livre, je mets en garde les gens qui voudraient monter une chaîne YouTube ou qui vont s'exposer sur les réseaux. Alors, un peu comme pour avec les, c'est un peu pour ce qui concerne les gens la même chose, c'est-à-dire que faut savoir qui parle, d'où il parle, et les réseaux c'est un peu pareil. Les critiques, par exemple sur YouTube, il y a un ton de critique sur YouTube, il y a un esprit de critique sur Facebook, sur Instagram aussi. Sur X, anciennement Twitter, j'en parle même pas. Enfin si, j'en parle, c'est-à-dire que là, c'est carrément, c'est la guerre. Les mecs, c'est en croix. Je vois des commentaires passer. J'ai l'impression que les mecs, ils ouvrent l'application et ils se mettent en mode... ils doivent faire de la... Se conditionner pour envoyer autant de merde. C'est pas possible, autant de méchanceté. On sent qu'il y a un esprit, quoi. Et YouTube, je trouve... Alors parfois, c'est violent, ça pique un peu, mais ça reste quand même équilibré. Je lis des choses assez agressives. Voilà. Alors ma conclusion par rapport à ça, les critiques sur les réseaux, je pense à YouTube parce que j'en ai pris quand même pas mal en pleine gueule. Moi, ce qui m'importe le plus là-dedans, c'est de repérer la mauvaise foi. Voilà, c'est un peu le dernier élément. Je crois qu'on a fait le tour. La dernière chose là-dedans, c'est vraiment de repérer les gens qui viennent critiquer pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire, je pense par exemple quand on a parlé d'Aya Nakamura. Quand j'ai parlé d'Aya Nakamura, où j'ai fait une critique purement technique, artistique sur le contenu. Et d'ailleurs, j'ai fait la même critique à propos d'Ariel Dombal, à propos de Enodi, à propos de Pamar, à propos, je sais pas, de Armanet. Enfin voilà, homme, femme, quelle que soit l'origine ethnique, machin, d'âge, de genre. Mais pour moi, j'ai regardé la technique et c'était une critique argumentée sur la production, quoi, sur l'indigence, la qualité ou la médiocrité du contenu. Et évidemment, quand je dis mauvaise foi, les gens qui sont venus en me disant « Oui, mais si tu dis ça, c'est parce que t'es jaloux, c'est de la misogynie, du racisme, du machin. » Je réponds même pas à ça. Ces gens, si on avait une discussion, il y aurait même pas de débat. C'est d'une telle pauvreté, c'est d'une telle indigence. D'ailleurs, ces gens ne débattent pas. Voilà. Ça aussi, c'est une critique qu'il faut bien... Une critique contre laquelle vous ne pouvez rien faire, ou c'est uniquement une espèce de critique gratuite où les gens ne veulent surtout pas de paroles contradictoires ou de toute façon sont de mauvaise foi, ça compte pas. Voilà, je le dis clairement, ça c'est des choses que j'ai vécues. Moi ça ne m'atteint pas, et si vous êtes dans ce cas-là, si vous exposez, et si vous avez un... Bon, ça c'est des critiques qu'il faut laisser. Alors, on peut bloquer, on n'est pas obligé de tout lire, on n'est pas obligé de tout savoir. Et puis après, je pense que c'est proportionnel. Plus je pense à mes exposés, à ma parole, qui parfois est un peu dure, bah, plus le ton est dur, plus le retour est dur. Je le sais, même si parfois j'essaye de prendre l'effort, mais j'essaye d'être jamais, comment dire, agressif, ordurier, violent, j'ai jamais été attaqué en diffamation. Malgré tout, les fans s'indignent. Et puis après, je vois bien sur la chaîne, les gens reviennent, parce que je vois qui commente. Et il y a des gens qui m'ont pris en grippe pour une vidéo, les fans de Enodi, ou les fans d'Aya Kamura, ou les fans de je sais pas quoi, et qui reviennent, et qui viennent poser un petit étron sur chaque vidéo. Ils ont décidé qu'ils étaient en mission. Donc c'est très proche de ce qu'on appelle le trolling, quoi, les trolls. Bon, ces gens-là, j'attends une fois, deux fois, au bout de trois fois, bon, c'est des gens que je dégage, quoi. C'est un peu l'impression... Ça, c'est genre, c'est cette image que j'ai toujours eue avec la critique YouTube, et puis après, on s'arrêtera là. J'ai toujours eu l'impression des gens qui viennent parler en commentaire, donc ils sont sur ma chaîne, ils sont sur Piano Jazz Concept, et ils commencent à parler, donc il y a une espèce de boucle de discussion. Et en fait, moi, l'impression que ça me fait, c'est que ces gens sont un peu chez moi, ils sont sur ma chaîne. Et j'ai vraiment... Alors, c'est particulièrement frappant pour les vidéos où j'ai donné beaucoup de contenu que j'estime, moi, être du contenu de qualité. Je le sais, parce qu'en tant qu'élève, j'aurais aimé voir ça ou savoir ça. Et je le sais parce que mes élèves me disent « Mais c'est génial ce que tu as montré, je savais pas, merci. » J'ai plein de retours de musiciens amateurs ou professionnels qui m'encouragent dans cette voie-là. Et donc, j'ai des gens qui viennent consommer. C'est gratuit, hein, je vous rappelle que je... Il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de... n'y a pas comment ça s'appelle, placement de produits, il n'y a pas de système de souscription. Enfin, voilà, si vous voulez m'aider, encore une fois, c'est les livres et les disques. Hein, et puis la pub, ça, ma foi, ça, quand je mets de la musique, en général, je ne touche pas un centime. Donc, je donne du contenu, c'est mon plaisir, c'est mon choix, je me plains pas, attention. Mais c'est comme si, en fait, l'image, vous allez comprendre, j'organisais chez moi, on fait la fête des voisins, je reçois tout le monde dans ma cour, ou chez moi, j'organise un buffet, puis les gens viennent dans le village, je dis, bah, bon, ça me fait plaisir, je vous reçois, je vous fais découvrir ma cuisine, je fais des expérimentations, ok. Et elle est là, donc, ce qui se passe dans mon esprit, les gens viennent, donc, ils mangent, ils se gavent, comment ça, ils viennent, donc, ils prennent tout, ils me pillent, je leur donne, c'est normal. Donc, là, ils viendraient, ils viennent, se baffreraient, et puis, au bout d'une heure, en fait, il serait devant moi, chez moi, en train de dire, ouais, c'est quand même mal décoré ici, hein, t'as vu? Oh, puis c'est un vrai con, non? Ouais, non, mais c'est vrai que, non, puis c'est, rien, la nappe, ça ressemble à rien. Et puis, il partirait en s'essuyant les pieds, je sais pas, sur le tapis, et puis en crachant un petit coup avant de partir. Voilà. Voilà exactement l'image que j'ai. Pardon, c'est un peu grossier, mais parfois, je me dis, mais les mecs viennent, ils me, et puis ils repartent comme ça, et sans, alors là, vous avez les spécialistes qui me disent « Ah oui, mais c'est comme ça, t'as qu'à accepter, si t'es pas content, t'as qu'à pas aller sur YouTube, t'as qu'à pas aller sur les réseaux. » Oui, tout à fait, je l'accepte. Ces gens-là se fichent de mon avis. Mais pour ceux qui s'intéressent à mon travail, voilà, peuvent le comprendre. Je parle même pas du fait que j'ai vu des gens m'encenser. Ça aussi, ça, la critique sur YouTube m'apporte beaucoup, m'apprend beaucoup de la psychologie humaine. Qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai vu des gens m'encenser sur la chaîne, venir en commentaire me critiquer, et je me retrouve, parce qu'on m'a envoyé un lien, ou par hasard, sur une chaîne, pas concurrente, mais disons, qui n'est pas forcément une chaîne amie. Et là, je vois la même personne, mais qui me vomit, qui me chie dans les bottes. Et je me dis, mais comment ça peut être la même personne qui vient me féliciter, me laisser des commentaires dithyrambiques et qui me, on pourrait dire qu'il me plante un coup de dos dans le dos. C'est pas ça, parce que j'appelle pas ça de la traîtrise, mais je me dis, c'est marrant, c'est un truc que je pourrais pas faire. Je pourrais pas encenser quelqu'un à un endroit et aller complètement casser du sucre sur le dos. Enfin, je sais pas. Ça me semble un peu, voilà. Donc, pour finir, quel intérêt de, savoir encore d'où parle la personne. Et YouTube, bon, c'est un peu le Far West, hein, donc faut faire le tri et faut rester serein par rapport à tout ça. Et puis un dernier mot pour finir. À l'occasion de la parution de mon premier roman, mon premier roman, c'était Le Clan Suspendu chez De Noël. J'ai eu la chance de rencontrer la correctrice de la maison, une femme délicieuse, douée d'une grande culture et ayant accompagné d'illustres auteurs dans leur cheminement littéraire, dont Brussolo, Narcejac, enfin, une femme incroyable, quoi. Je me souviens alors que nous apportions les dernières retouches à mon manuscrit, lui avoir confié mes craintes quant à la fortune de ce livre. Je me demandais s'il allait se vendre, suffisamment du moins, pour ne pas perdre l'intérêt de la direction éditoriale qui gère avant tout, rappelons-le, une entreprise commerciale. Bah oui, c'est comme ça. Hein. Je me demandais aussi comment il allait être reçu par la presse. Ces mots résonnent encore aujourd'hui dans mes oreilles. Si un texte ne marche pas, le romancier doit écrire contre ce texte. Il vous appartient de corriger le tir dans le suivant, et le suivant, et le suivant, etc. Merveilleuse leçon. Pour le démiurge authentique et passionné, l'accueil critique est certes incontournable, mais il ne peut pas, il ne doit pas tarir le jaillissement créatif. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, vous abonner. Beaucoup regardent sans être abonné. N'oubliez pas que ça aide la chaîne. Prochaine vidéo, je l'ai dit, je pense qu'on va parler des modes homonymes ou modes parallèles ou les emprunts. Tout ça, on va voir que c'est un petit peu à peu près la même chose. On prendra des exemples dans un standard de jazz, mais aussi une œuvre populaire, une musique de film. Et voilà. Et en attendant, je vous dis, portez-vous bien.